Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. C'est Territoire en Mouvement qui commence tout de suite, animé bien sûr aujourd'hui avec Damien de Radio Dev. Salut Damien.
Bonjour Maëva.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Eh bien très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une émission autour de la biodiversité. Avec des invités, nous recevons Véronique Ney, vice-présidente en charge de la biodiversité et du cadre de vie. Bonjour.
Bonjour.
Mélina Choupin, chargée des espaces naturels et Natura 2000. Bonjour Mélina.
Bonjour.
Et Jason Crébassa, chargée de mission. Bonjour Jason.
Bonjour.
À la communauté de communes de la vallée de l'Hérault. Bonjour à tous. Alors, vous venez nous voir aujourd'hui pour parler d'un événement qui va avoir lieu à la fin du mois de mai, la Fête de la Nature. Alors, la Fête de la Nature, c'est un événement national qui a lieu pour la 19e édition sur des dates du 21 au 25 mai et donc propose et invite chacun à célébrer la nature à travers des événements et des propositions partout en France. Donc événement national, organisé avec le soutien de l'Office français de la biodiversité et qui rassemble chaque année du public autour de la richesse, de la diversité, du vivant. Alors la communauté de communes de la vallée de l'Hérault s'est emparée de cet événement pour faire des propositions sur notre territoire. On va revenir à la fin de l'émission sur la programmation locale de cet événement. Mais avant cela, pour rappeler aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse de l'état de la biodiversité sur notre territoire, en fait ? Quels sont nos atouts ?
Alors, les atouts sont nombreux. On a une grande diversité de paysages et d'écosystèmes. Du coup, ça induit une diversité d'espèces. On peut notamment évoquer les zones humides le long du fleuve Hérault et le fleuve Hérault, également de nombreuses mares. Donc là, il y a des espèces particulières qui y vivent, notamment les amphibiens. En ce moment, c'est la saison. Des amphibiens comme le crapaud, le pélobate cultripède, donc un des très rares et menacés amphibiens que l'on a dans la région, et il est présent sur le territoire. On peut évoquer aussi les chauves-souris, les chiroptères, qui fréquentent ces zones humides car riches en insectes. Et au-delà de l'aspect zone humide, elles peuvent ensuite aller sur la plaine viticole, consommer par exemple le ver de la grappe, donc elles sont utiles aussi aux agriculteurs. Donc dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité, on a réalisé des inventaires sur l'ensemble du territoire. Donc au niveau des espaces agricoles, on a pu recenser par exemple l'outarde canepetière qui peut vivre dans les friches agricoles justement. Donc c'est un oiseau également qui est rare et protégé. Mais il n'y a pas que justement dans les milieux naturels que l'on trouve de la biodiversité, dans le milieu urbain aussi. On peut notamment noter le faucon cresserellette qui est revenu de son petit périple en Afrique pour ce printemps, est revenu sur les communes du territoire, notamment à Saint-Pargoire, à Plessant ou d'autres communes dans le sud de la vallée de l'Hérault.
Voilà pour les espèces. Il y a aussi des zones qui sont reconnues comme Natura 2000. Peut-être Mélina, vous qui êtes en charge, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
En effet, sur le territoire de la communauté de communes, on a pas loin de 40% du territoire qui est classé Natura 2000, qui fait partie du réseau Natura 2000. Et ce réseau, il s'est mis en place sur les zones qui ont le plus de diversité, en tout cas aux yeux de l'Europe, parce que c'est un réseau européen. Et donc, on a un certain nombre d'espèces d'oiseaux, de chauves-souris, d'insectes qui habitent sur ces vastes espaces naturels que sont les garrigues du Causse d'Aumelas, par exemple, ou le territoire des gorges de l'Hérault. Et donc, en effet, l'action de la communauté de communes sur ces périmètres-là, elle commence à être assez ancienne. Ça fait 10-15 ans maintenant que la communauté de communes est gestionnaire de ces sites-là. Et donc... en charge de la conservation des habitats et des milieux naturels sur ces espaces naturels.
Alors justement, Véronique Ney, vous êtes la vice-présidente, déléguée notamment donc à la biodiversité. Alors on a cité par exemple l'Atlas de la biodiversité, on a parlé de cette politique autour de la biodiversité menée depuis maintenant plusieurs années. On va égrener dans les prochaines minutes cette stratégie autour de la biodiversité 2024-2026. Quelle est finalement la politique autour de cette biodiversité et pourquoi menez-vous une politique autour de la biodiversité avec la communauté de communes Vallée de l'Hérault ?
Depuis 2000, en fait, il y a, comme le disait Mélina, 15-20 ans, l'intérêt s'est porté sur des zones spécifiques comme les zones classées en Natura 2000. Depuis 2021, par contre, on s'est intéressé un petit peu plus à la biodiversité ordinaire. Et comme on l'a eu dit sur cette antenne, on a réalisé cet atlas de la biodiversité intercommunale, c'est-à-dire à l'échelle des 28 communes de la vallée de l'Hérault. À l'issue de ce programme, on a prolongé nos actions et puis l'ABC, c'était en fait un inventaire pour connaître ce dont nous disposions sur notre territoire. Au-delà de ça, une fois que l'on connaît, c'est important de savoir comment on s'y prend pour préserver, pour protéger. Et donc, on a mis en œuvre depuis 2021 une véritable stratégie pour protéger justement cette biodiversité.
Si je comprends bien, finalement, cet atlas de la biodiversité n'était pas une finalité, mais c'est en fait une base, un socle, justement, pour mener cette stratégie à venir.
C'était uniquement un socle de connaissances que, d'ailleurs, on peut continuer d'alimenter, puisque les gens peuvent toujours envoyer des photos sur e-naturalist. On continue à collecter les données pour avoir des choses un petit peu spécifiques. Mais au-delà de ça, il a fallu mettre en place des actions concrètes, et notamment les aires terrestres éducatives, qui sont des actions qui sont poursuivies avec les écoles du territoire, de manière à transmettre un message aux jeunes générations, hein, qui sont les citoyens de demain. Donc des actions précises autour donc, des aires terrestres, de la mise en place de mares, de haies, d'actions au-delà des jeunes générations, des actions auprès des viticulteurs par rapport aux politiques zéro phyto et à l'intérêt de l'utilisation des auxiliaires de culture. D'ailleurs, avec ces différentes actions, nous venons d'être reconnus comme territoire engagé pour la nature. On a reçu ce label la semaine dernière et on en est très fiers. Voilà. Et cela va nous permettre de poursuivre avec une reconnaissance nationale sur les actions qui sont engagées.
Les habitants étaient sollicités pour notamment la rédaction de l'Atlas. Est-ce que c'est un point inévitable de les consulter, de les associer à la stratégie autour de la biodiversité ?
Ça me paraît un point majeur parce que l'intérêt n'est pas de constituer une base de données. L'important, c'est de partager les connaissances, de donner envie aux gens de préserver, de protéger. Et leur participation est quelque chose de particulièrement important. On peut d'ailleurs y trouver un prolongement dans le concours photo qu'on organise chaque année. Et la remise des prix se fera notamment à l'occasion de la fête de la nature dont vous parliez tout à l'heure, au Pont du Diable, le samedi à 14h. Donc les lauréats vont pouvoir découvrir les clichés qui ont été retenus.
Pour préserver, il faut aimer. Pour aimer, il faut connaître. L'idée, finalement, c'est donc de mener durant ces prochaines années à travers cette stratégie. Alors, on a parlé de zéro phyto, mais voilà, c'est finalement de mener des actions auprès du grand public. C'est la cause majeure, finalement, de cette stratégie, Mélina.
Oui, la stratégie, elle revêt en fait différentes dimensions. Et en effet, comme le disait Véronique, un peu dans la continuité de l'ABC, il y a une dimension citoyenne qu'on voudrait voir se poursuivre quand on faisait des inventaires. En effet, donc il y avait une partie d'inventaire participatif avec le grand public. Alors, on avait aussi complété avec des inventaires de scientifiques. Voilà, c'était un peu un mix de ces différents formats d'inventaire. Mais c'est clair que, en résonance en fait avec la vallée 3D, digitale, démocratique
Et durable.
Et durable de la vallée de l'Hérault. Pour nous, c'est important de poursuivre dans cette dimension avec l'implication du public. On voudrait un peu sortir de l'idée que la biodiversité, c'est une affaire d'experts et c'est une affaire d'espace naturel. Non, c'est pas que ça. C'est la biodiversité, elle est partout et c'est l'affaire de tous. Donc, c'est en ça qu'on essaye de travailler. Et c'est dans cet état d'esprit aussi qu'on a élaboré notre stratégie biodiversité, à la fois en conviant les habitants et les élus à l'élaboration de ces stratégies, mais aussi maintenant dans cette mise en œuvre. Pour nous, c'est vraiment une ligne de conduite assez importante au quotidien dans nos actions.
On peut justement un peu rentrer dans les détails, dans le vif du sujet. Avec Véronique Nel, on a parlé donc des zones terrestres, on a parlé des haies, on a parlé de zéro phyto. Par exemple, autour des zones terrestres, que mettez-vous en place? Quelle est la volonté finalement autour de cette biodiversité des zones terrestres? Voilà, est-ce qu'il y a des actions précises ou du moins déjà des volontés?
Alors, notre stratégie, on l'a construite sur le sujet des trames écologiques, donc des corridors. Voilà, donc en fait, on la décline à travers la trame bleue. On a parlé des mares, donc on a en effet en ce moment une stagiaire à la communauté de communes qui travaille sur la caractérisation, la description aussi des cortèges d'amphibiens sur un certain nombre de mares, le but étant de restaurer certains nombres de mares, voire d'en créer pour constituer un réseau qui soit pertinent sur le plan écologique. Concernant la trame verte, on parlait tout à l'heure de notre action sur les haies. C'est en effet notre projet principal sur le volet terrestre, finalement, qui est celui de compléter le réseau de haies dont dispose le territoire. Et pour ça, on fait appel à la population, aux viticulteurs, aux mairies, pour faire émerger des projets de plantation que nous, on accompagne techniquement et financièrement. Et puis la troisième trame sur laquelle on commence à travailler, c'est la trame nocturne. Donc la préservation du ciel, de la trame noire. Et on voudrait travailler sur la question de la pollution lumineuse. Donc ça, c'est un chantier qu'on commence à lancer, mais qu'on va faire un petit peu monter dans les prochains mois et prochaines années sur le territoire.
Quand on parle de trame noire, par exemple, en fait, voilà, ce sont toutes les communes qui maintenant se mettent à éteindre leur éclairage public la nuit. Y a quoi d'autre comme possibilité, justement, pour travailler sur cette trame noire
Comme tout projet, au départ, on va commencer par faire un petit peu un diagnostic, en fait, pour voir un peu l'état du ciel étoilé à la communauté de communes, voir les secteurs où on voit les étoiles et ceux où on les voit un peu moins. Ça permettra d'orienter notre action. Mais en effet, vous l'avez soulevé, la principale entrée, c'est l'éclairage nocturne, donc l'éclairage public. Donc en effet, on va travailler sur ce sujet-là avec les élus, avec les habitants, bien sûr, parce que Véronique est bien placée pour le savoir. Ça pose aussi des questions d'acceptation dans les villages que d'éteindre. Donc c'est un chantier un vaste chantier qu'on s'apprête à lancer.
Est-ce que ce sont quand même des démarches qui sont globalement bien reçues par justement les habitants, pour faire lien avec ce que vous venez de dire?
Elles sont bien reçues si on fait preuve de beaucoup de pédagogie. Parce qu'au départ, d'éteindre, y a une peur du noir et un sentiment d'insécurité. Et en fait, avec les services de gendarmerie pour notre territoire, on voit que les incivilités, elles ne se produisent pas quand on a le noir complet dans un village. Elles se produisent dans d'autres horaires, mais au contraire, il y a beaucoup moins d'infractions quand les lumières sont éteintes. Sauf que pour le grand public, ce n'est pas évident à accepter immédiatement. Mais une fois que c'est en place, les gens se rendent compte qu'au final, ce n'est pas si mal que ça.
Et plus généralement, finalement, autour de la population, aujourd'hui, on sait quand même... Alors justement, vous allez nous le confirmer ou au contraire nous dire que c'est faux, mais on a la sensation quand même qu'on est face à une population qui est quand même plus tournée vers ces problématiques de l'environnement. Comment c'est perçu vis-à-vis de la population, hein? Vous l'avez forcément testé avec la mise en place de l'Atlas de la biodiversité, la participation. C'est un public quand même qui est prêt à faire des efforts, les agriculteurs aussi, vous avez parlé du zéro phyto. On est face quand même à des publics qui ont pris conscience des enjeux.
Il me semble qu'il y a une certaine prise de conscience au niveau de la population. J'en veux pour preuve, par exemple, une animation amphibienne qui a eu lieu récemment sur le territoire, qui a eu un grand succès. Je pense qu'il y a quelques années, les gens auraient été beaucoup plus indifférents à ce type de proposition. Donc, ce n'est qu'un petit exemple, mais on le voit bien quand même. Si on relie l'ensemble de nos politiques publiques au niveau du tri des déchets, au niveau, je dirais, des propositions qui sont faites par rapport à cette stratégie biodiversité, il y a une bien meilleure acceptation de nos concitoyens.
On va peut-être rentrer dans l'événement qui approche à la fin du mois de mai, donc la fête de la nature. Alors déjà, pourquoi vous avez voulu rentrer dans cette démarche nationale? En quoi la CCVH s'y retrouve et qu'est-ce que cela permet au niveau des communes qui la composent?
Alors la fête de la nature, ça fait un moment, vous avez indiqué, je crois, la 19e édition.
Voilà. C'est ça.
Donc à la communauté de communes, ça fait pas autant de temps qu'on l'organise, mais pas loin d'une dizaine d'années. Au départ, ça se passait essentiellement au Pont du Diable, qui concentrait un peu toutes les animations, donc en lien étroit avec l'office de tourisme à l'époque et pendant plusieurs années. On avait atteint une participation assez importante. En 2019, il y avait 6000 personnes qui venaient, alors pas uniquement pour la fête de la nature, mais disons que ce jour-là, il y avait 6000 personnes qui étaient passées sur le pont du Diable. 2020 arrive avec le confinement, comme chacun connaît, voilà, et donc c'est cette dimension un peu massive, elle était plus souhaitée ni souhaitable. Donc en fait, à ce moment-là, c'est la communauté de communes qui a repris la main sur la coordination de l'événement, et on a cherché à éclater, à disperser l'offre en termes d'animation à l'occasion de cette fête de la nature. Donc là, ça fait depuis 2021 qu'on a repris un peu un format plus normal, puisqu'en 2020, c'était un peu compliqué. Mais voilà, du coup, depuis 2021, on propose chaque année un événement sur plusieurs jours, sur plusieurs communes, en faisant appel justement aux communes, parce que voilà, nous, agents de la CCVH, on n'organise pas tout ça tout seul, c'est beaucoup, beaucoup avec l'appui des élus, des associations en local. Le but étant d'avoir une offre diversifiée dans le temps, dans l'espace et dans les sujets qu'on traite. Donc on y travaille chaque année, beaucoup, chaque printemps. Et donc voilà, on est dans la préparation du coup de l'édition 2025.
Donc cette édition, elle aura lieu entre le 21 et le 25 mai. Peut-être que l'on peut rentrer dans les détails, si ça vous convient. Alors on ne va pas pouvoir donner toutes les informations parce que ça fait beaucoup de communes et beaucoup d'animations. Mais peut-être faire quelques zooms sur des temps forts qui auront lieu durant cette semaine.
Oui, bah du coup, il y a 8 communes qui se sont portées volontaires pour cette année, notamment la commune de Gignac, par exemple, avec un grand nettoyage de printemps en canoë des berges de l'Hérault, et suivi, donc ça serait pour le mercredi 21, et suivi le samedi d'une découverte de la biodiversité, toujours en canoë avec l'association Demain la Terre. À Montarnot, le samedi au matin, le 24 mai, pareil, sur le thème sur la garrigue gourmande, pour justement découvrir toutes les plantes comestibles et médicinales que l'on peut trouver sur notre territoire, avec plusieurs associations et stands qui proposeront des balades. Ensuite, Bellarga, dès le vendredi soir, une soirée autour de la biodiversité, autour d'un apéro, un verre de l'amitié, suivi le lendemain, pareil, plusieurs stands et animations sur la commune. Ensuite, au Pont du Diable, donc, il y aura un jeu de piste le samedi matin de 10h jusqu'à 17h30 avec Kezako, à la découverte de la faune et de la flore sur le site du Pont du Diable. Et du coup, ce sera l'objectif du jeu de piste, c'est d'aller chercher des indices dans le milieu naturel et sur les différents stands qui présenteront la biodiversité locale. À Paupian également, il y aura une animation sur les oiseaux avec la LPO Occitanie et suivie d'une fabrication de nichoirs. Et là, l'objectif sera après de disposer ces nichoirs sur les espaces verts de la commune. Donc ça, c'est pour le mercredi. À Saint-Guyen-le-Désert également, sur la place du Platane, de nombreux stands sur la biodiversité avec Kermit, Goupil Connexion, Demain la Terre, et aussi une représentation du spectacle Haussel. C'est un instant ornitho-artistique, donc un spectacle qui a pour objectif de découvrir les oiseaux tout en mêlant culture et biodiversité. À Puéchabon, il y a de nombreuses également animations prévues du mercredi jusqu'au dimanche, avec notamment une balade et un conte pour enfants le mercredi. Et le vendredi soir, un apéro partagé avec la projection d'un film justement sur la pollution lumineuse qu'on parlait tout à l'heure, pour voir l'impact sur la biodiversité, et suivi d'une discussion avec France Nature Environnement sur le sujet et également sur les chauves-souris. Et enfin, pour terminer le dimanche, une balade naturaliste dès le matin, toujours à Puéchabon. Et enfin, le spectacle Haussel qui sera représenté l'après-midi à Puéchabon.
Finalement, cette fête de la nature, c'est un de vos principaux temps forts, justement, quand on travaille tout au long de l'année autour de cette biodiversité, de cet environnement à préserver. On s'appuie sur des moments forts. Il y en a d'autres ou c'est l'unique temps fort, cette fête de la nature, pour vous, pour communiquer auprès de la population?
On va dire que c'est le principal temps fort où vraiment il y a une concentration dans le temps d'animations qui sont proposées. Après, la communauté de communes, elle a aussi une programmation nature un peu tout au long de l'année pour le grand public, notamment dans les sites Natura 2000, donc même au-delà de la communauté de communes. Et aussi, elle travaille aussi sur l'éducation à l'environnement, aussi auprès des scolaires. On parlait tout à l'heure des aires terrestres éducatives, il y a différents formats aussi à destination de la jeunesse pour parler biodiversité un peu tout au long de l'année. Mais c'est vrai que la fête de la nature, c'est un peu le grand temps fort, en tout cas pour notre équipe.
Oui, parce que pour revenir à ce que vous disiez, Véronique, sur la transmission auprès des futures jeunes générations, il y a dans cette semaine aussi programmé des temps pas ouverts au public, mais en tout cas pour les scolaires, pour qu'ils puissent aussi travailler la thématique à l'école.
En fait, au niveau de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, les actions que l'on engage dans le cadre de cette stratégie, c'est vraiment une vision à long terme de politique d'engagement au niveau d'un développement durable. Et donc, ça intègre tout un programme d'éducation qui est distillé auprès des jeunes du territoire, de la protection et aussi une mobilisation collective. Je dirais que préserver la biodiversité aujourd'hui, c'est plus une option, ça devient réellement une nécessité. Il est important de faire prendre conscience à nos habitants que la nature, c'est devenu l'affaire de tous et qu'il faut agir ensemble pour la sauvegarder et que c'est une politique qui doit se décliner de façon intergénérationnelle.
Puis j'imagine que toucher les enfants, c'est indirectement aussi toucher les parents, c'est une porte d'entrée.
Bien sûr.
Les enfants sont des fois souvent beaucoup plus réceptifs que les adultes sur le sujet, c'est ça?
On le voit bien, quand les enfants participent à une aire terrestre, ensuite, le week-end, on voit les parents qui viennent se promener sur l'aire, ou les grands-parents. Donc non, ça touche l'ensemble, et c'est ce qui est important.
Durant cette fête de la nature, il va y avoir, donc, comme on en a parlé dans cette émission, des associations qui vont intervenir ou proposer des animations. Est-ce qu'on peut faire une liste non exhaustive des assos qui soutiennent cet événement?
Alors, sur l'événement, il y a plusieurs associations, donc de Demain la Terre, la LPO Occitanie, l'association Kermit et bien d'autres. Après, concernant l'appui sur la stratégie globale sur la fête de la nature, le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie nous accompagne sur le projet des mares, sur l'inventaire, la caractérisation et derrière la préservation, restauration et création des mares. Et sur le projet de plantation de haies, on travaille avec l'association Paysarbre, pour lequel on sollicite le programme Hérolté et auquel nous, la communauté de communes, vient en cofinancement à ce programme, du coup, pour limiter le reste à charge des planteurs, les planteurs qui sont, ça peut être les communes, des particuliers, des agriculteurs. Et voilà, et du coup, l'idée, c'est d'inciter à la plantation de haies sur le territoire pour recréer un maillage qui favorise la dispersion des animaux, la colonisation, la continuité écologique et du coup, favorise les espèces. Et au-delà de ça, on peut aussi citer le bienfait de la haie, hein, qui n'est pas seulement un axe biodiversité, mais au-delà, hein, c'est du stock de carbone pour le climat, c'est de l'épuration des produits phytosanitaires via le système racinaire, c'est un effet brise-vent pour les cultures. Donc voilà, et on peut aussi noter l'intérêt aussi des espèces qui peuvent être comestibles dans les haies. Donc voilà, elles ont de multiples raisons d'être sur le territoire. C'est pour ça qu'on essaie de les préserver et de les développer.
Et oui, vous faites bien de le rappeler, effectivement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu parler de cette fête de la nature dans notre émission. Donc, je le rappelle, elle aura lieu du 21 au 25 mai 2025 sur... 8 communes de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault. Je précise aussi que toutes les animations sont gratuites, ouvertes à toutes et à tous. Donc voilà, faut pas hésiter à venir découvrir cela et y participer. Merci beaucoup à tous les trois. Donc je rappelle, Véronique Neil, vous êtes vice-présidente en charge de la biodiversité et du cadre de vie. Mélina Choupin, chargée des espaces naturels et Natura 2000. Et Jason Crébassa, chargée de mission, tous les trois à la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Merci à tous les trois.
Merci à vous.
Merci.
Et merci Damien de Radio Lodève pour la co-animation de cette émission.
Merci beaucoup Maëva pour l'accueil.
À très bientôt.